L'écho des campagnes, portrait d'entreprise rurale tournée vers l'ailleurs. Une série produite par Radiola. Nom de l'entreprise.
Enertech.
Date de création.
En 80 pour la fondation, vraiment le cabinet Olivier Sidler, et 98 pour la SARL, et puis 2015 pour la SCOP elle-même.
Lieu du siège.
Pont-de-Barret.
Nombre de salariés.
25 environ.
Chiffre d'affaires.
Autour d'1,5 million, ça dépend des années.
Forme juridique.
SCOP.
On est une SCOP SARL.
Localisation de la clientèle.
Eh bien, France principalement pour nos activités, et un petit peu à l'étranger pour les campagnes de mesure. Nous, on s'intéresse à l'énergie primaire parce que d'un point de vue du climat, du point de vue aussi de l'indépendance énergétique de la France, finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on importe, ce qu'on tire du sol. Et ça, qu'on soit sur du fossile ou du fissile, c'est des choses qu'on tire du sol et un jour, il n'y en aura plus, quoi.
Ce qui nous réunit un peu tous à Enertech, au moins, c'est ce souci de réchauffement climatique, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie. Ça, c'est mais global, hein, que ce soit dans le bâtiment ou dans le transport ou dans l'agroalimentaire. Ça, c'est la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, c'est le gros fil conducteur à Enertech. Ça, c'est sûr.
On est où ici?
Là, on est dans le réfectoire des bureaux. Voilà, c'est là qu'on mange. On ne tient pas tous sur la table, elle est devenue trop petite.
Ah ouais.
Mais quand il fait beau, on se met dehors. On a les deux grandes tables sous la pergola.
Ah.
On va attendre que le café est complètement fini. Il peut mettre un certain temps et il faut qu'on la détartre un de ces quatre.
Ça fait un bruit incroyable.
Ça fait un bruit incroyable, oui, on a besoin d'être détartré. Thierry Riezer, je suis chez Enertech depuis un peu plus de 11 ans et je suis gérant de la SCOP depuis 2015. Oui, donc on a été créé par Olivier Sidler, hein, qui a basé son entreprise, donc d'abord le cabinet Olivier Sidler en région parisienne et qui est venu s'implanter dans la Drôme, qui a eu le coup de cœur pour Féline Surimandoul en fait, et donc qui a créé l'entreprise sous forme SARL ici. Olivier a créé sa structure comme une boîte militante depuis le début, donc vraiment très impliqué dans la transition énergétique du secteur des bâtiments, à travers à la fois des actions de maîtrise d'œuvre pour concevoir des bâtiments performants, des actions de campagne de mesure pour savoir comment les bâtiments marchent dans la vraie vie, pas seulement sur le papier. Ce qui nous intéresse, c'est de sauver les pingouins et les ours blancs, c'est pas juste de faire des calculs qui nous font plaisir. Donc voilà, on va voir comment ça marche en vrai. Et voilà, de fil en aiguille, Enertech est devenu un bureau d'études assez réputé, assez connu dans son domaine. Donc on a grossi, voilà, on était une douzaine quand moi je suis arrivé en 2008. Et voilà, aujourd'hui on est plus du double. Donc voilà, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien et qui continue donc à exercer ses métiers, toujours sur des sujets nouveaux, d'une activité très centrée sur l'énergie seulement. On a ouvert à l'énergie, le carbone et aussi la qualité environnementale, les matériaux sains, la construction bois, etc., les biosourcés. Également l'analyse en coût global, une vision analyse de cycle de vie un peu plus large. Alors voilà, tout un tas de choses qui enrichissent nos pratiques et notre façon de pratiquer nos métiers. Donc c'est toujours en perpétuelle évolution et on cherche à rester un petit peu fer de lance ou un peu innovateur dans le domaine du bâtiment performant, donc performance au sens large du coup.
Julien, j'habite à Dieulfi. J'ai intégré Enertech en 2010. On a une armada d'appareils de mesure, soit des enregistreurs, soit des appareils de mesure pour faire des mesures instantanées de débit d'air, de débit d'eau, de prise de température. On a une porte soufflante pour faire des tests d'infiltrométrie, vérifier l'étanchéité des bâtiments. On installe la porte, on met en pression le bâtiment ou en dépression et après on fait le tour des fuites d'air qu'il pourrait y avoir dans le bâtiment pour estimer un peu son étanchéité à l'air. Ça, c'est un truc hyper important sur lequel on bosse beaucoup, la qualité d'air intérieur, parce que on demande un gros effort sur les chantiers d'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc tu rends un bâtiment étanche, mais derrière, s'il n'y a pas une ventilation suffisante, d'un point de vue sanitaire, ça peut ne pas faire le job. Ding, ding, ding.
Ça saute,
et c'est la ligne qui...
Non, mais
j'ai
l'air. Non, c'est le... Donc, ça saute, quoi.
Eh bien, ouais, en fait, on n'a pas d'enrouleur, une rallonge de 10 mètres, du coup, on va être obligé de...
Et vous avez combien d'instruments de mesure?
D'instruments de mesure, on en a pas mal.
Il y a à peu près 10 000 instruments de mesure au total entre ceux qui sont là dans la salle et ceux qui sont sur le terrain en train de fonctionner pour enregistrer ce qui se passe dans les bâtiments.
Et pas une seule rallonge.
Hein, et pas une seule rallonge. Enfin, si, plein de rallonges, mais des petites rallonges et pas des longues. C'est bizarre, on avait un rouleur, je sais pas où il est basé.
C'est ici l'atelier?
Ouais.
Qu'est-ce que vous stockez ici du coup?
Tout le système de mesure, donc les mesures de courant, de température, d'humidité, de CO2, ouverture des fenêtres, de débit d'air, de pression.
Oh, ça fait toujours plaisir de fabriquer une petite rallonge à l'heure du déjeuner.
C'est ça.
Ça fait beaucoup pour une raclette.
Ça fait beaucoup. Ding, ding, ding.
On avait lancé ça pour se faire un petit moment convivial et on fait ça ouais, en début d'année et c'est pour essayer de relever un peu la température après les deux semaines de vacances de Noël. Ça permet de remettre un petit peu en chauffe le bâtiment, de faire tourner deux ou trois appareils à raclette. Je crois qu'un appareil à raclette, ça doit faire quoi, 1000-1500 watts. Oui, on les fait tourner là, les deux trois appareils pendant on va dire une heure ou deux, et ça permet de remettre un peu en chauffe le bâtiment, et après c'est reparti juste avec nos apports internes et si possible un peu d'apport solaire. Moi, le bâtiment est en chauffe mais sans problème. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu un gros boulot de fait au niveau de la conception et du suivi de chantier. Et là, derrière, le résultat, il est génial, ouais.
L'idée générale, c'était donc de construire pour nous-mêmes un bâtiment fer de lance, là encore. Un bâtiment comme on n'en voyait pas, on n'osait pas les faire pour nos maîtres d'ouvrage, parce que c'était un petit peu trop innovant. Et donc, pour nous-mêmes, on a fait à la fois un bâtiment low-tech, sans chauffage, une ventilation double flux, mais décentralisée, c'est le petit boîtier qu'on voit là, une excellente enveloppe type passive, en bois paille, avec du triple vitrage, sans chauffage, à énergie positive. Voilà, donc c'était un bâtiment qui nous a... Enfin, on s'est beaucoup mobilisé pour le concevoir. Il a été aussi beaucoup récompensé. On a eu un prix de l'ingénierie performante qu'on voyait dans la vitrine tout à l'heure pour la conception de ce bâtiment. Il a fait beaucoup parler de lui aussi parce que c'était le moment où a commencé l'expérimentation E+, C-, qui est un programme qui avait pour but de préparer le terrain pour la prochaine réglementation des bâtiments neufs, la RE 2020, qui devrait être décidée et promulguée cette année. Et donc E+, C-, préparait cette RE 2020 et on a été le premier bâtiment à être labellisé au plus haut niveau de ce référentiel. Et on est resté le seul, je crois qu'il y a un deuxième bâtiment qui s'est rajouté il y a quelques mois, mais voilà, on a été pendant 2 ans le seul bâtiment E4C2. Donc voilà, donc c'est un bâtiment qui a vraiment eu son rôle de fer de lance, qui a permis de démontrer qu'on pouvait faire des bâtiments au top de performance pour un prix très raisonnable. Puisqu'il est sorti à 1120 € du mètre carré. Je vous passe un petit peu les détails techniques, mais pour faire simple, c'est un bâtiment qui coûte plutôt moins cher que son équivalent juste réglementaire en conception traditionnelle, parce que l'approche low-tech et la sobriété qu'on est capable de mettre, nous, en tant qu'équipe d'Enertech dans ce bâtiment, dans l'utilisation de ce bâtiment, nous a permis des simplifications radicales Je disais en plaisantant que notre chaufferie, avec toutes ses pompes et ses chaudières et ses machins, ça se résume en fait à 4 radiateurs à roulettes qui se baladent dans un couloir. Voilà, ça c'est une autonomie radicale par exemple. Donc ça fait des économies financières très nettes. Aussi la sobriété de l'architecture, hein, on a voulu volontairement une architecture de grosse maison qui s'insère dans le village de Pont-de-Barret, c'est pas la Défense, on peut pas faire une tour vitrée à Pont-de-Barret, enfin, de toute façon on n'aurait pas voulu, mais voilà. Donc toutes ces choses-là font qu'on arrive à faire des bâtiments pas chers du tout, avec un niveau de performance excellent.
Non, c'est vrai.
C'est un peu ça que j'ai suivi dans l'atelier là. Donc en fait, ici, on branche un truc de raclette, c'est le bâtiment le plus performant d'Europe.
Mais il n'est pas prévu pour surconsommer. C'est le bizarre, c'est tout comme ça, le midi, à chaque fois, et ben, les nanas se retrouvent
pas,
à côté, quoi.
Mais si, ça
comment ça se fait? Non, on ne se mélange pas, en fait. Ah, merci. Mais voilà. Merci, Michel.
Parce que, à la midi, je me retrouve dans le coin des femmes, alors je me suis non.
Merde, j'ai oublié mon nom. Qu'est-ce qui m'a piqué ma raclette?
Et t'es arrivé juste à ce moment-là.
Ça va que c'est toi, hein?
Quoi?
Parce que tu m'as piqué mon truc.
Ah, alors, attends, je crois que regarde, là, je te donne un deux. Il y en a une autre pour vous.
Là, je sais pas comment
prendre deux. Il y a chèvre.
Moi, je suis plutôt dans le pôle campagne de mesure, ce qu'on appelle campagne de mesure. On fait de l'instrumentation des bâtiments. On essaie de quantifier un peu tout ça, les consommations d'eau, d'énergie. On essaie de quantifier le confort des usagers en température, en hygrométrie, en qualité d'air, les taux de renouvellement d'air, les teneurs en formaldéhyde, COV, tout ce que peut dégager un matériau et qui pourrait être source de problèmes pour la santé. On fait des diagnostics de bâtiments, on essaie de quantifier tout ça pour après donner des préconisations pour que derrière le bâtiment puisse être moins énergivore tout en étant aussi confortable. C'est toujours un peu la limite à trouver entre réduire les consommations de chauffage par exemple sans que les occupants se retrouvent à avoir trop froid dans leurs locaux l'hiver. Et on fait pas mal de lobbying aussi, ou alors de la recherche et développement. On a pas mal d'études pour l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui veut un peu investiguer sur l'état des lieux de consommation énergétique du bâtiment en France aujourd'hui. Alors il y a des cahiers des charges qui sont directement proposés hein, par l'ADEME ou d'autres commanditaires. Ça peut être, on travaille pas mal sur des lycées, des bâtiments sociaux, enfin là où ça peut un peu poser problème toutes ces notions de conso, d'énergie et de confort. Mmh. Après on peut aussi nous-mêmes proposer des projets recherche avec ce qui serait susceptible de nous intéresser. Et là on crée un peu notre propre cahier des charges pour investiguer sur un sujet qui nous semble sensible, intéressant, pertinent.
Alors l'énergie primaire, c'est par différenciation avec l'énergie finale. L'énergie finale, elle est facile à comprendre, c'est celle qu'on paye. Donc quand j'achète un kilowattheure à EDF ou à Enercoop, c'est de l'énergie finale, ça passe dans mon compteur, c'est sur la facture. L'énergie primaire, en fait, c'est l'énergie qu'il a fallu prélever dans la nature pour fabriquer ce kilowattheure, dans ce cas-ci, le kilowattheure d'électricité. Il faut à peu près 3 kilowattheures d'énergie primaire, que ce soit de l'uranium, ou que ce soit du charbon, ou que ce soit du fioul ou du gaz, à peu près le même ratio, à quelque chose près. Il faut à peu près 3 kilowattheures d'uranium pour produire 1 kilowattheure d'électricité. Pour vous dire que l'électricité, c'est une énergie qui est noble, qui est formidable d'ailleurs, parce qu'on peut faire des choses avec l'électricité que je ne sais pas faire avec rien d'autre. Mon ordinateur, il tournera jamais au charbon, ou ni au fuel, ni au gaz. Voilà. Donc l'électricité, c'est extrêmement précieux, il faut l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que nous, on privilégie toujours les pompes à chaleur ou des systèmes performants pour utiliser l'électricité plutôt par rapport au radiateur électrique. Sauf dans les bâtiments à 3 kWh par mètre carré de besoin, parce que là, on est tellement faible que ça ne vaut pas le coup de se payer toute l'énergie grise d'une installation compliquée. Mais bon, c'est un cas très particulier, mais de façon générale, on est très contre les radiateurs électriques pour cette raison-là. Et de la même façon, quand je mets 1 litre d'essence, c'est-à-dire 10 kWh d'énergie dans ma voiture, avant la raffinerie, il y avait à peu près 1,1-1,2 kWh de pétrole brut qui a dû être raffiné. On en perd toujours un petit peu pendant qu'on raffine, on le transporte, etc. Donc on en perd un petit peu, il reste 1 kWh dans ma voiture. On peut faire le meilleur bâtiment du monde, selon comment ça se passe après avec les occupants. Le bâtiment peut plus ou moins bien fonctionner, il y a toujours une marge d'incertitude qui est liée à l'occupant. Et c'est aussi notre rôle de faire des choses qui soient d'abord compréhensibles pour les occupants. Quand on fait des usines à gaz trop complexes, etc., déjà les occupants ils comprennent rien, mais même des fois les équipes de maintenance ne comprennent rien à l'installation. Donc ça, c'est un problème à la fois de communication, de formation, mais aussi de notre faute, entre guillemets, d'avoir fait quelque chose de pas adapté finalement au niveau de complexité qui est capable de gérer un maître d'ouvrage. Mais des fois, quand on intervient sur des grosses rénovations, on a les utilisateurs en face de nous, il suffit qu'on aille les voir, et on peut travailler avec eux, réfléchir un peu à leurs usages, essayer de faire évoluer un petit peu leurs pratiques à la marge. C'est pas toujours facile, mais ça fait partie des sujets aujourd'hui. Il y a un grand pan d'innovation là aussi dans ce domaine-là, et on est en train de se former à ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, qui fait partie des techniques d'accompagnement de la transition énergétique, qui se base un peu sur à la fois les sciences cognitives et les sciences humaines, pour essayer de voir comment on peut accompagner les gens dans des changements de pratiques qui peuvent être assez radicaux pour eux, mais qui sont utiles pour le bien commun. Là, on est à un moment qui est important pour nous, pour moi en tout cas, mais c'est quelque chose qui est assez partagé dans Enertech, mais on sort de notre seul rôle d'expert sachant plein de choses. On a toujours plein de choses à apprendre, à apporter, et ça reste notre ce pour quoi on est reconnu, c'est pourquoi on fait appel à nous. Mais en plus de ça, on essaye d'apporter une dimension de transmission de ce savoir, pas seulement en démontrant par A plus B, quoi.
Et il y a ce travail du coup à Enertech qui est fait où tout le travail qui est fait au quotidien là, de ces 25 salariés ont aussi pour vocation, en bout de chaîne, d'avoir des éléments concrets pour montrer aux hautes sphères à Paris qu'il y a un peu urgence et qu'il y a des solutions qui existent, quoi. Il n'y a pas que des problèmes, ça c'est un peu facile de pointer du doigt les problèmes, ça, on les voit tous, mais il existe aussi des solutions. Et c'est ça qu'on essaie de présenter. Et il y a tout ce travail de lobbying en bout de chaîne qui fait qu'on est tous assez bien motivés par notre boulot. Enfin, ça se concrétise par quelque chose de tout ce travail qui peut être fait, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. On se dit que là, on fait vraiment bouger les lignes pour de vrai, quoi. Mmh. On n'est pas tout seul dans notre petit coin dans le sud de Drôme à essayer de batailler contre des moulins à vent, quoi. Ça rend un peu optimiste, oui. Oui. Ça peut vraiment se concrétiser. Enfin, ça, il y a un vrai aboutissement.
On travaille sur les choses qui ont du sens. Et on s'en rend compte à travers les réalisations qu'on fait, qu'on a souvent la chance de mesurer derrière. Donc on voit que ça tient ses promesses, à quelque chose près, voilà. Donc on a cette satisfaction-là d'avoir été utile finalement. Et c'est très concret. Après, l'optimisme, c'est une question un petit peu différente. On est nombreux à être inquiets quand même de l'avenir, hein, faut le dire. On va faire face dans les décennies qui viennent à des gros problèmes, que ce soit climatiques, sociétaux, énergétiques. Ça va se tendre. Quoi qu'il en soit, moi j'ai la satisfaction tous les matins en me levant de me dire que tout ce que je fais, tout ce que je vais pouvoir faire dans la journée, ce sera toujours ça de gagner. Tous les petits dixièmes de degrés qu'on peut gagner sur le climat, ce sera sans doute des centaines de millions de personnes déplacées en moins, peut-être des risques de guerre en moins, etc. Donc tout ça est utile, tout ça fait sens, et c'est vraiment ça qui nous motive, moi comme toute l'équipe.
L'écho des campagnes, une série réalisée par Théo Fortunato et Pauline Lemaire-Desmarais, avec le soutien de la communauté de communes de Dieulfi-Bourdeaux, l'Union européenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le GAL Porte de Provence. Retrouvez les portraits de toutes les entreprises de l'écho des campagnes,
l'écho des campagnes,
sur www.radiola.media/EDC comme écho des campagnes.